Tout de suite, Agnès de Sartre, et qui va donc nous parler à partir de sa propre expérience d'écriture, de sa propre petite fabrique du roman.
Bonjour, et bravo d'être là. Vous méritez chacun individuellement et collectivement une médaille pour vous être arraché à ce qui se passe dehors. Moi-même, je ne comprends pas très bien ce que je fais là, mais... mais bon, une fois passé ce petit préambule, je me suis demandé quand même comment était venue à l'idée du très sage Dominique Bondu de m'inviter à une fabrique ou de m'imbriquer à une réflexion sur la fabrique du roman, alors que mes trois derniers ouvrages publiés étaient deux contes et un recueil de nouvelles. Alors je me suis dit, une lagracienne, elle aime tellement venir, elle est très gentille, alors il sait que ça me fait plaisir, alors il m'invite. Après, je me suis dit, c'est par esprit de contradiction, il s'est dit, tiens, on va parler du roman, invitons en premier quelqu'un qui justement n'en a pas fait depuis longtemps, donc elle ne sait plus comment on fait, et elle va se demander qu'est-ce qu'on fabrique quand on fabrique un roman. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Oui, mais une partie de chasse, c'est vieux déjà, tu sais, Dominique, ça... Eh bien oui, mais le temps file, hein. Donc en plus, c'est drôle que tu évoques une partie de chasse, parce qu'une partie de chasse, c'était mon dernier roman publié, et je me souviens que je l'avais écrit dans un état de rage qui était... j'ai horreur des romans, il faut toujours que ça dure, puis il y a des guillemets, il faut aller à la ligne, il faut des chapitres. Et j'ai écrit ce roman entièrement enragé contre le roman. Donc c'était déjà le préambule ou le préalable à ma sortie de route. Mais enfin, de sortie de route, il n'y en a jamais, comme vous allez le voir, puisque c'est un peu l'objet de ma communication d'aujourd'hui, que j'ai appelée forme au pluriel et format au singulier. Et qui va m'amener à fabriquer le roman, le défabriquer et le refabriquer dans une espèce de jeu de pâte à modeler. Pour illustrer mon propos, Dominique m'avait dit qu'on avait droit à des lectures, je me suis dit que plutôt que de vous lire des grands classiques que vous avez sûrement déjà lus, ou des livres de moi que vous n'avez sûrement pas lus, mais qui ça faisait un peu prétentieux de lire des... Ah, j'ai quand même apporté un livre de moi, mais qui est un livre pour enfants, dans lequel je pose la question de comment on fait un roman. Ça s'appelle La plus belle fille du monde, et c'est la mise en scène d'une jeune fille qui essaye d'écrire un roman pour la première fois et qui se prend les pattes, les pieds dans le même tapis que celui qui jonche nos parquets d'écrivains tourmentés. Et donc ça m'a renvoyé. Alors je lirai des passages de temps en temps de ce roman, La plus belle fille du monde. Alors pour les gens qui n'ont jamais lu de littérature enfantine, vous verrez, sauf que c'est exotique, c'est marrant, c'est différent. Et puis aussi c'était dans une volonté qui est toujours la mienne, pour ceux qui me connaissent, de dédramatiser les enjeux. Voilà. Donc ça m'a renvoyé, puisque j'étais avec Sandra, l'héroïne de La plus belle fille du monde, à la première fois que j'ai voulu écrire un roman. La première fois que j'ai voulu écrire un roman, j'avais une quinzaine d'années, et je voulais devenir écrivain depuis longtemps, mais là ce qui avait changé, c'est que j'avais vu Marguerite Duras à Apostrophe, et je m'étais dit, bon vas-y ma cocotte, c'est le moment. Il faut écrire un roman, ce qui veut dire aussi que quand jusque là j'avais écrit toutes sortes de choses, des histoires, des contes, des poésies, mais tout ça, ça compte pas, il fallait écrire le roman, et écrire le roman, ça vous posait comme écrivain. Donc à 15 ans je me dis allez, c'est bon, j'écris un roman. Alors avant de commencer à vous raconter ce qui se passait dans ce roman, je vous lis le début de La plus belle fille du monde. Vous allez voir que je partage avec mon héroïne quelques points communs. Donc je rappelle, le livre s'appelle La plus belle fille du monde. Autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas l'héroïne de cette histoire. La plus belle fille du monde, ce n'est pas moi. Je ne suis même pas la plus belle du quartier, ni la plus belle de la classe. Je suis juste moi, Sandra Valzer. J'ai 14 ans, ce qui est à la fois un très bon âge et le contraire, un âge nul. Ça dépend de quel point de vue on se place. L'autre jour, en fouillant dans la bibliothèque de ma mère, je suis tombée sur un livre qui m'influence énormément. L'auteur s'appelle Marthe Robert, et le titre, c'est « Roman des origines, origine du roman ». Je ne l'ai pas lu, il est très long, je n'ai pas le temps, et si ça se trouve, je n'y comprendrai rien. Mais on n'a pas forcément besoin de lire un livre pour qu'il vous influence. Parfois, le titre suffit. J'aimerais être romancière plus tard, et dès que j'ai vu ce vieux volume tout abîmé sur l'étagère, j'ai su que Marthe Robert m'envoyait un message, un truc pour m'aider à devenir écrivain. La méthode, c'est qu'il faut commencer par les origines. Je vais donc vous parler de mes parents, même si, comme je l'ai dit, je ne suis pas l'héroïne de cette histoire. Je ne suis pas non plus un personnage secondaire, je suis la narratrice. Et ça, c'est quand même important. Je suis sûre que Marthe Robert serait d'accord avec moi pour considérer que les origines de la narratrice ne doivent pas être négligées. Après, si vous voulez savoir quelles sont les origines, il faut continuer, je ne vais pas vous lire. Enfin, j'adorerais vous lire ça pendant une heure, ce serait beaucoup plus reposant, mais on ne va pas faire comme ça. Donc là, on est en présence d'un roman autobiographique. Mon roman à moi, quand j'avais 15 ans, n'était pas du tout autobiographique, il était beaucoup plus ambitieux que ça. Je voulais écrire un roman à mi-chemin entre Michel Tournier, Victor Hugo, Marguerite Duras et André Malraux. C'était à peu près ce que j'avais concocté comme pâte. Et donc j'avais appelé ça le dauphin. Et je me suis rendu compte... Non mais alors, c'est drôle parce que en y repensant, je repensais à ce livre que j'ai perdu. J'ai perdu le manuscrit, enfin, si on peut appeler ça un manuscrit. Mais enfin, bon, ça s'appelait Le Dauphin. Et ça s'appelait Le Dauphin, mais maintenant, quand je dis Le Dauphin, je pense à l'animal. Le Dauphin, Flipper, Le Dauphin. Mais quand j'écrivais ce livre à 15 ans, à un âge où on se prend beaucoup plus au sérieux que quand on a 200 ans de plus, je pensais Le Dauphin, c'est-à-dire celui qui n'est pas le roi, qui est juste en dessous. Et sauf que, en essayant de me rappeler une phrase, je me suis dit, je vais quand même livrer à un public vraiment impatient de connaître les origines du roman, le roman des origines, donc d'où ça vient, cette fiction chez Agnès de Sartre. Puis je vais quand même essayer de leur livrer une phrase, à défaut de pouvoir vous lire ce merveilleux roman. Donc la phrase qui me revient, c'était « Je serai le chat sauvage plutôt que le grand lion ». C'était une des phrases que j'avais écrites dans ce roman et qui maintenant me fait rire comme vous, puisque je me dis, mais en fait, je ne savais pas, j'écrivais un roman animalier. Alors que pas du tout, c'était vraiment quelque chose, je voulais vraiment à mi-chemin entre Victor Hugo, André Malraux, Marguerite Duras et Michel Tournier. Donc, mais il y avait beaucoup d'emphase, c'était très riche, c'était très. Voilà. J'aperçois ma famille. Vous pouvez emmener les enfants au bord de la rivière ? Non ? Non, il est au bord de la rivière. Allez, pardon, excusez-moi pour cette interruption. Hein. Vous, sur le chemin des potagers, plus précisément. OK ? À plus. Voilà, bon, c'est... Voilà, après, on se demande comment les écrivains font pour se prendre au sérieux. Eh bien, voilà, ils ne peuvent pas. Mais il y avait quand même un point sur lequel je voulais insister, sur cette histoire de roman. Et là, peut-être que c'est une expérience que je partage avec certaines personnes dans cette salle. Alors, vous avez le droit et même le devoir de vous dévoiler et de vous dénoncer si vous partagez un sentiment que je vais avouer moi-même maintenant. Je commence à écrire Le Dauphin, pleine d'ardeur et d'ambition, peut-être aussi de prétention. Et première page, extraordinaire. Deuxième page, c'est un torrent qui jaillit de moi. Bon, troisième page, c'est un peu moins bien. Blablabla. Puis j'arrive à la page 10-12, et là, c'est fini. Ça s'arrête. Alors, je ne pense pas, tiens, j'ai une panne de l'écrivain, tiens, j'ai l'angoisse de la page blanche, je ne pense rien. Je reviens sur mes 12 pages, je les retravaille, je les relis, je m'en ennuie, je trouve qu'elles sont absolument incroyables. Le chat sauvage, le grand lion, le dauphin, etc. Et puis, mais avec le temps... Je reviens là-dessus. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont essayé d'écrire un roman et qui se sont arrêtés à la page 12 ? Bon, qu'ils le disent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais, mais je suis sûre qu'il y en a dans la salle, parce que c'est souvent comme ça. Oui, oui, une main s'est levée, merci. Merci. C'est deux mains, trois mains ? Alors on dirait une vente aux enchères. Oui, oui, par là, oui, 500, oui. C'est bon, adjugé. Adjugé David, c'est bon. Alors voilà, nous sommes plusieurs à avoir commencé un roman et à l'avoir arrêté à la page 10. Alors qu'est-ce qui se passe à la page 10 ? C'est ça que je me suis demandé, puisqu'on était dans cette histoire fabrique du roman. Alors, voyons voir, on prend au début. Pourquoi est-ce qu'on arrive, par exemple, à cette époque, j'arrivais à écrire une nouvelle, un petit conte, un poème, sans problème, mais ce roman, qui était pourtant promis à être absolument génial, vu les marins et les parraines que je lui avais choisis, s'arrête. Et c'est un sentiment que j'ai encore maintenant, que je suis une grande fille, et que j'écris, et que c'est devenu mon métier. Souvent, c'est ce qui se passe, je commence le livre, il y a un élan, et ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'arrête quand ça s'arrête ? L'idée qui me revient le plus souvent, quand je réfléchis à ce moment un peu de détresse ou de désertification, c'est l'image des grandes traversées, des premières grandes traversées. Quand on a arrêté le cabotage, donc on avait un petit bateau, on voyait la côte, on pouvait faire coucou aux gens, on allait d'un bled à l'autre, d'un port à l'autre, et puis bon, c'était un peu rassurant, bien sûr, il pouvait y avoir une tempête, etc., mais enfin, on voyait toujours la côte. Puis à un moment, on se dit, allez, on va le faire la grande traversée, on va aller découvrir l'Amérique, on ne sait même pas s'il y a l'Amérique au bout d'ailleurs, on part, et puis on part. Puis dans un premier temps, c'est assez agréable, tout le monde est joyeux, on a un grand bateau, c'est ça le roman, c'est le grand bateau. Et puis au bout d'un moment, bon ben, la côte disparaît, on se sent moyen, bon, on espère vaguement que la côte prochaine va apparaître, et la côte n'apparaît pas. Et puis entre-temps, le temps passe, il y a vraiment de moins en moins de souvenirs même de la côte, d'odeur de terre, et il n'y a rien au devant. Et en plus, on n'a plus de vivre tellement, on n'a plus tellement d'eau. Les hommes commencent à mourir du scorbut. Enfin, c'est une ambiance assez mauvaise sur le navire. Et on ne sait même pas s'il y a quelque chose au bout. On ne sait pas encore, au moment des grandes traversées, s'il y a l'Amérique, l'Inde, je ne sais quoi. D'ailleurs, ça n'a pas de nom, vu que c'est des terres supposées. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, pour moi, dans le roman. C'est-à-dire un moment qui, je situe personnellement à la page 10-12, mais que certaines personnes peut-être situent pour eux-mêmes à la page 45, je ne sais pas, où il doit y avoir une sorte d'acceptation, on doit accepter de lâcher un certain amarre qui reste, amarre, c'est un signe à quelqu'un dans la salle, un amarre qui reste pourtant attaché. Donc on était resté attaché, on était dans une position sécurisante, on savait un peu d'où on venait, mais on savait pas où on savait d'où on venait. Puis à un moment, il faut couper ça et partir au risque de ne rien trouver. Et c'est toujours la sensation qu'on a quand on part dans l'aventure du roman, c'est qu'on va naufrager, on va être naufragé en fait. Donc je crois que c'est pour ça qu'on s'arrête la plupart du temps. Au début, en tout cas, on s'arrête assez souvent au début, parce qu'on éprouve cette peur de l'espace, cette peur de l'inconnu. Je me suis rendu compte ensuite, en réfléchissant toujours à cette histoire de roman, à la fabrique du roman, que souvent, quand on me demande de parler, d'évoquer ma pratique du roman, alors c'est aussi un peu mon défaut, ma qualité, ou en tout cas ma spécificité, j'utilise des métaphores. Mais alors, le nombre de métaphores qu'il y a pour parler du roman, c'est extraordinaire. Alors, il y a cette métaphore de la traversée, de la grande traversée, comme une des premières grandes traversées. Et puis, il m'est arrivé parfois d'évoquer un fourre-tout, cette espèce de grand sac informe dans lequel on bourre des choses. Et puis, une bulle. Parfois, je parle du roman sous forme de bulle, comme un monde, un roman-monde. Il m'arrive aussi d'opposer, quand on me demande, parce que j'ai écrit des nouvelles, alors c'est quoi la différence entre les nouvelles et le roman, d'évoquer la nouvelle comme une course de vitesse et puis le roman comme une course de fond, qui ne demanderait pas les mêmes qualités, qui ne demanderait pas la même endurance, qui ne demanderait pas, qui se conduirait de manière complètement différente. Et en fait, quand je vois le nombre de métaphores que j'utilise pour décrire ce qu'est un roman, je me mets à douter que ce soit vraiment une forme. Puisque fourre-tout, bulle, course, enfin tout ça, grande traversée, ça part dans tous les sens, et je me demande finalement si le genre roman n'est pas justement une forme informelle, et n'est pas une forme qui se réduirait finalement à un format. La forme du roman, ce serait juste un format, c'est-à-dire c'est un truc long. Voilà, le roman, c'est un truc long. Alors, à partir de là, on se dit, bon, bah alors voilà, bravo pour la théorie, mais j'ai décidé quand même, obstinée comme je le suis, de pousser cette idée du truc long et de voir où ça nous menait, si cette histoire de format pouvait décider de forme. Je vous rappelle que le titre de cette communication est « Forme au pluriel, format au singulier ». Alors, donc format, c'est le roman, et forme, c'est ce que ça suscite. Donc j'ai décidé de m'en tenir comme présupposé théorique au fait que le roman était un truc long. Et je me suis dit qu'une des choses que... on fait cette expérience quand on écrit un roman, parce que c'est long, c'est qu'on a une anxiété. On ne sait pas où on va, on craint d'égarer notre lecteur en chemin, et donc on est tenté de revenir au cabotage. Alors là, comme je fais des gestes, on peut dire cabotage, cabotinage, mais non, je parle bien du cabotage, et donc de revenir à un certain point de départ. Et je me suis demandé si c'était pas ça qui donnait lieu aux fameuses digressions. Alors je vais vous donner un exemple de digression. Alors ça... C'est si jamais il y a des jeunes, des étudiants, alors, qui ne savent pas encore ce que c'est une digression, ou des gens qui ne se souviennent plus très bien ce que c'est, ou des gens qui savent très bien ce que c'est, mais qui se demandent comment on en parle quand on a 14 ans, et ben, je vais vous faire une petite lecture, page 49. Donc hop, ça là c'est Sandra, elle a commencé à parler de la plus belle fille du monde, ça fait un moment qu'elle en parle, et puis à un moment il se passe quelque chose. Elle est avec sa mère, elle vient de demander à sa mère à quel moment se termine l'enfance. Sa mère a pleuré, un truc de mère. Bon, pourtant ma mère est une dure à cuire. Les mélos la font rire, les difficultés de la vie lui font froncer les sourcils, les catastrophes la rendent de mauvaise humeur. Je me suis dit que je venais par hasard de toucher son talon d'Achille. J'aime beaucoup cette histoire. La mère d'Achille, il y a très longtemps, à l'époque de la Grèce antique, voulait que son fils soit invincible. Alors qu'il était tout bébé, elle l'a trempé dans une rivière magique qui avait justement pour vertu de rendre les gens immortels. Ça a parfaitement fonctionné, sauf qu'au moment de l'immersion, elle l'a tenu par le talon afin qu'il ne soit pas emporté par le courant. Du coup, son fils était invincible de partout, sauf de cet endroit qu'un de ses ennemis a fini des années plus tard par toucher. Achille, théoriquement immortel, est donc mort. Je crois que ce genre de conte s'appelle une parabole. Terme de vocabulaire de plus pour les jeunes qui font des études dans cette salle, ce qui signifie qu'il y a un sens caché, une leçon à en tirer. En gros, ça veut dire que même les plus blindés d'entre nous ont un point faible, et que c'est même ce point faible qui les rend humains. Lyuba Gogol, c'est le nom de la plus belle fille du monde, elle aussi devait avoir un point faible. Peut-être avait-elle d'horribles talons, qui sait. Mais me voilà à nouveau en train de faire une digression. Les digressions, c'est bien, mais s'il y en a trop, on perd le fil. Disons que celle-ci a eu pour fonction de vous faire patienter pendant que ma mère avait les yeux au plafond et que je ne savais pas trop comment enchaîner. Donc, les digressions, ça peut servir à faire patienter le lecteur pendant qu'on ne sait pas comment parler d'un certain événement. Et puis, ça peut servir à d'autres choses. Et une question que je me suis posée quand à un moment, vous avez peut-être vécu vous aussi cette expérience, on a été envahi par des romans qui souvent venaient des États-Unis, qui étaient issus de ce qu'on appelait le creative writing. Donc il y avait les universités où on pouvait apprendre à écrire des romans en particulier, enfin, des nouvelles aussi. Et dans ces romans, alors il y en a eu des merveilleux, il y en a eu des passionnants, il y en a eu qu'on a adoré, il y en a eu qu'on n'oubliera jamais. Et puis au bout d'un moment, moi en tout cas j'avais une petite sensation d'indigestion quand à chaque fois, au bout de la page 12... Il y avait un personnage qui levait les yeux et qui regardait les étoiles, et on avait 20 pages sur la galaxie, la voie lactée, combien de temps met une étoile à mourir, comment ça se fait que la lumière nous arrive, et un peu de physique quantique, et puis un peu de chimie pendant qu'on y est, pourquoi pas, et puis de la photo optique. Enfin, donc on avait des morceaux comme ça de romans qui étaient très confortable à lire parce qu'on avait pour une fois l'impression qu'on apprenait quelque chose, parce que la plupart du temps, le lecteur du roman lui-même est un peu... il se demande ce qu'il fabrique, quoi. Pourquoi est-ce que je lis ça? Je suis en train de perdre mon temps, je pourrais être en train de me promener au bord de l'Orbieu. Qu'est-ce que je fais à lire ça? Bon, au moins, quand il y a un petit chapitre scientifique, on dit « Ah ben là, j'en ai pour mon argent, là, enfin, bon... » Donc on apprend des choses, c'est pas mal. Mais alors, pour l'écrivain, à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire cette digression scientifique Yes! Merci, oui. Parce que ça dessèche de se promener au bord de l'Orbieu. Donc à quoi ça sert à l'écrivain? Alors je me suis dit que moi l'écrivain, ça lui servait à se rassurer. Alors pourquoi ça rassure l'écrivain? Déjà ça fait avancer des pages. Donc comme le roman, je vous rappelle, c'est un truc long. Quand on a écrit 12 pages et qu'on n'arrive pas à aller plus loin, on se dit, comment je vais faire pour aller à la page 42 et tout? On se dit, oh, dis donc, si je faisais une théorie là sur... qu'est-ce que ça pourrait être? Les étoiles, c'est bien. Alors en plus, maintenant, comme on a Wikipédia, tous ces trucs Internet, on peut vraiment faire énormément de creative writing. Et c'est vraiment très bien, on peut faire des romans beaucoup plus longs que ce qu'on faisait avant. Donc je me suis dit, voilà, l'auteur se rassure. Il se rassure parce qu'il arrive à faire un peu plus long dans le truc long. Et en plus, l'auteur, un des problèmes de l'écrivain, c'est qu'il ne sait rien. Enfin, la plupart des écrivains sont absolument... sont des andouilles. J'en parlais il y a un instant avec une amie écrivain qui partageait avec moi ce sentiment. Donc nous sommes pour la plupart des andouilles, on n'en a pas grand-chose, en fait c'est rien de plus que les gens qui ne sont pas écrivains. Et pourtant, on écrit. Donc c'est agréable de temps en temps de pouvoir s'adosser sur un peu un truc solide, une science dure, comme on les appelle, à l'inverse des sciences molles qui, elles, on ne peut pas s'appuyer dessus, donc on ne peut pas faire des beaux chapitres qui tiennent bien fort debout. Donc là, on se fait un petit chapitre de science dure, et l'écrivain se sent mieux, il se sent ravigoté, et là, il peut reparler de « mais Jocelyne se demandait si Jean-Jacques allait revenir », etc. Donc, voilà. Et puis ça donne une espèce de, vous voyez, ah, tout à coup, là, l'histoire de Jocelyne et Jean-Jacques, qui, est-ce qu'ils allaient se quitter, est-ce qu'ils allaient, qui allait avoir la garde de l'enfant. Bon, finalement, comme c'était, il y avait la parabole des étoiles et du cosmos, etc., on se dit, ah oui, non, c'est pas juste un roman intimiste, en fait, c'est une cosmogonie. Bon, ça donne aussi du grain à moudre aux journalistes, donc ça, c'est toujours très bien. Et donc voilà, là, c'était une façon aussi de caboter. Voilà, on retourne à la côte. Alors, il y a une autre façon de retourner à la côte. C'était une façon qui a été beaucoup pratiquée à une époque où l'imprimerie n'avait pas exactement le même fonctionnement que maintenant. C'était le feuilleton. Donc, l'écrivain n'écrivait pas un roman, il écrivait des bouts de roman. Donc, c'était beaucoup plus facile parce qu'il écrivait 12 pages et la semaine d'après, il écrivait encore 12 pages. Donc, il s'arrêtait à chaque fois à la page 12, mais... comme il recommençait, c'est un peu comme pour ceux qui connaissent les Shadocks et les Gibis, enfin ça doit peut-être leur évoquer quelque chose. Donc il recommençait à chaque fois à zéro, même s'il ne recommençait pas tout à fait à zéro, mais c'était extrêmement rassurant puisqu'il avait l'impression de maîtriser quelque chose. Donc voilà ce que je me suis dit par rapport à comment on fait quand on est un écrivain, par rapport à cet espace à remplir, cet espace effrayant du roman. Et ensuite je me suis posé la question d'un autre point de vue, et j'ai pensé, oui, alors la fabrique du roman, le roman, ses perspectives, l'autobiographie, le récit, l'histoire, etc., toutes ces choses qui remettent en question le roman en tant que genre et en tant que forme. Le roman, est-ce que c'est pas vieux jeu, est-ce que c'est pas un peu dépassé? Par exemple, ça m'arrive parfois, je rencontre des gens, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis écrivain. Qu'est-ce que tu écris? Des romans. C'est comme à la page 12. Ça s'arrête, en fait. Il n'y a rien à en dire. Donc, tu fais ce vieux truc. OK. Bon. Et donc, il y a quand même une volonté, et chez moi aussi, puisque j'ai évoqué tout à l'heure l'état dans lequel j'étais quand j'écrivais la partie de chasse, qui était un roman, et pourtant, j'écrivais en étant furieuse contre le roman. Donc, qu'est-ce que c'est que cette furie? Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour détruire le roman? Parce qu'en fait, ce que veut l'écrivain, parfois et même très souvent, c'est détruire le roman. D'ailleurs, il l'a souvent fait. Alors, petit extrait de lecture. Alors, parce que je vais faire un clin d'œil aux modernistes, qui font partie des gens qui ont tenté de faire sa fête au roman. Donc, page 101, vous allez voir que ce livre pour enfants est une mine. Il y a même une allusion au courant de conscience. Alors, page 101, voilà. Donc c'est toujours Sandra Walser qui parle de ses amis, de l'école, de tout ça. Et là, je me trouve dans un embarras narratif dont je ne sais pas si Marthe Robert parle dans son livre. Pour être juste, à cet instant du récit, il faudrait à la fois que je puisse raconter ce qui se passe dans ma tête et ce qui est en même temps... ce qui se passe dans ma tête et qui est en même temps très lent et très rapide, et ce qui se passe dans la réalité, entre les quatre murs de la salle, à un rythme encore différent. Peut-être que certains écrivains ont trouvé la solution pour faire coexister ces divers niveaux, mais je n'ai pas encore assez lu pour le savoir. Pour être vraiment fidèle, il faudrait que sur la même page, je puisse décrire M. Palissa, notre prof d'art plastique, et livrer un genre de compte-rendu de son cours auquel se superposeraient les regards de Fleur, Allison et mon commandant, qui eux-mêmes serviraient de toile de fond au bavardage de Liuba dans mon oreille, à sa voix qui coule contre mon tympan et me brûle, ce qui me permettrait d'expliquer à quel point cela m'horrifie et m'angoisse. Un embarras narratif réel et que nous connaissons tous et que vous avez peut-être connu quand vous êtes livré à l'expérience d'écrire ces fameuses 10 ou 12 pages, c'est que dans la pensée, tout vient en même temps, tout est sur le même plan, et puis quand on écrit, ben, on doit l'aligner, c'est un mot après l'autre, une phrase après l'autre, et tout ça sur une grande durée, pour peu qu'on parle du roman. Donc il y a eu plusieurs moments de l'histoire du roman, il y a eu des tentatives de détruire le roman. Alors, on l'a détruit de plusieurs façons. Alors, il y avait les modernistes, ils étaient forcément influencés par l'abstraction, par le cubisme, donc des constructions. On coupe les pans, on interrompt, on jette le lecteur ailleurs, on le reprend, on le malmène, on lui lâche la main. bon, tentatives qui ont donné des œuvres sublimes, d'autres moins, comme toujours. Il y a eu des mouvements surréalistes, post-surréalistes. Alors ça, je vais pas vous décrire tout ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir par vous-même. Et puis on a fait d'autres choses. Encore plus récemment, on a décidé d'enlever les personnages, enlever l'intrigue, enlever certains mots. Et en fait, moi, ça me donnait l'impression, dans ses tentatives de détruire le roman, d'une sorte de savant fou qui aurait sur son billard, ou son bio plutôt, un patient dont il couperait, dont il enlèverait certains bouts en se demandant « est-ce qu'il vit encore ?» Je lui coupe une jambe, il vit encore. Je lui coupe deux jambes, il vit encore. Je lui coupe un bras, il vit encore. Je lui coupe la tête, il vit encore. Et donc j'avais l'impression que le roman était cette espèce de patient malheureux, étendu comme ça, à qui on coupait des morceaux, on lui enlève, et sans le foie, tu vis, tu respires. Et je me dis, c'est incroyable à quel point cette forme, et peut-être justement parce que c'est pas une forme, mais ce n'est qu'un format, est incroyablement résistant. Il a une sorte de tonicité, de vigueur. Donc vous tuez le roman revient. Il revient toujours. Et après, je me suis dit, tiens, tuez le roman. J'ai pensé à cette phrase, tiens, on doit tuer le roman. Et ça m'a amusée parce que je me suis dit, ah oui, c'est le même genre de phrase, comment on peut dire, qui devient une tarte à la crème, au même titre qu'à un moment, il fallait tuer le père. Je ne sais pas si vous êtes peut-être encore d'actualité. Il faut toujours tuer le père, hein. C'est très très bien, allez-y, vraiment, il faut essayer. Ça va vous libérer, ça va être extraordinaire, vous rêvez plein de choses merveilleuses. Et donc, il faut aussi tuer le roman. Mais tuer le roman s'avère aussi difficile, comme vous l'avez vu, que de tuer le père. Donc, j'ai essayé de trouver des petites paires d'adjectifs comme ça, qui pouvaient à la fois décrire ce que ça procurait comme, enfin, ce que ça procurait comme plaisir et ce que c'est ça, comment dire, ce que ça générait comme difficulté de tuer le roman comme de tuer le père. Donc c'est à la fois nécessaire et impraticable, conseillé et pénible, déjà vu et décevant, et surtout ça, c'est-à-dire que il y a une sorte de déception parce que il y a cette fameuse comment dire, cette fameuse persistance, rémanence du roman qui se relève toujours de ses blessures. Et donc, finalement, en continuant de m'interroger sur cette forme, je me suis dit que peut-être ce qui la caractérisait, c'était cette vigueur, cette espèce d'impersonnalité, et c'est aussi ce qui apporte ou ce qui lui confère une incroyable générosité dans l'accueil. C'est-à-dire que le roman accueille toutes sortes de choses, toutes sortes d'auteurs. Je dis c'est un truc long, mais en vérité, il y a des romans épais comme ça. Puis il y en a des très gros, et puis il y en a où il y a des chapitres, il y en a où il n'y en a pas. Finalement, on est très libre dans le roman. Il n'y a pas de contrainte puisqu'il n'y a pas de forme. Alors c'est aussi sa limite, c'est aussi peut-être de ça qu'il meurt, puisque comme c'est rien, ben, ça finit par n'intéresser plus personne, ou on se dit ben, c'est pas assez quelque chose. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on y revient toujours, puisque quand on ne sait pas quoi écrire, ou même parfois quand on ne sait pas écrire d'ailleurs, on se dit ben, je vais écrire un roman, hein, ce sera toujours ça de fait. Donc voilà. Pardon, je regarde l'heure. C'est très bien. Alors, une question aussi qui se posait par rapport au roman, puisque j'ai dit que c'était un truc long et qu'il n'avait pas de forme, je me suis demandé moi-même comment on savait, comment on évoluait, comment savoir où on en était dans le roman, et surtout la fameuse question que je me pose et que sûrement des camarades à moi se posent aussi, une fois qu'ils ont franchi le fameux écueil de la page 12, qu'ils sont arrivés à la page 45 et enfin à la page 157, ils se demandent ben, comment finir, comment on termine un roman, qu'est-ce qui se passe et comment on sait qu'on a terminé. Donc, je vais vous lire encore un petit passage. Pardon. Je me suis souvent demandé comment les écrivains faisaient pour savoir quand leur livre était terminé. À part si tout le monde meurt à la fin, il peut toujours se passer de nouvelles choses. Et même si tout le monde meurt, on peut faire revenir les héros sous forme de zombies, ou les suivre au paradis, ou en enfer. Même la mort ne suffit pas à terminer un livre. Sauf bien sûr si c'est l'écrivain qui meurt en pleine action, mais à ce moment-là, le livre n'est pas vraiment terminé, il est arrêté. Je pense au conte de mon enfance. Dans ce cas, c'est facile. Ça se finit quand ils se marient et ont beaucoup d'enfants. Mais je ne me vois pas aller jusqu'au mariage de Liuba, et encore moins jusqu'au mien. Dans d'autres livres, pour plus grands, on sait que la fin arrive quand le personnage qui allait bien au début, puis mal au milieu, s'en sort de nouveau. La boucle est bouclée, en quelque sorte. C'est comme ça qu'on sait. Dans les romans policiers que j'aime lire, c'est encore plus simple. On trouve le coupable, et voilà. Parfois, il faut aussi attendre quelques pages de plus pour que le détective embrasse la femme, blonde et plantureuse en général, qui le faisait fantasmer depuis le début. Tout ça ne me dit pas comment je vais m'en sortir. Peut-être que le seul fait de se poser la question « Est-ce que mon livre est fini ?» est le signe qu'on approche du but. Mais c'est sûrement le signe qu'on est paresseux et qu'on en a marre. Je vois bien qu'il me reste quelques points à éclaircir. Parce que l'autre, donc, une fois qu'on est embarqué dans cette fameuse traversée, la traversée qui est coûteuse, qui est épuisante, et c'est d'ailleurs une expérience difficilement partageable parce que on vous dit, mais enfin, c'est pas si fatigant que ça, t'es assise à ton bureau, tu fais rien de la journée, t'es là, comme ça, parfois comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de fatigant là-dedans? Il n'y a pas de risque, tu ne portes pas d'objets. Et bien pourtant, si, c'est incroyablement fatigant d'écrire un roman. Et une des fatigues est liée au fait qu'on ne peut pas anticiper la durée de l'épreuve que ça représente, à mon avis. Hein. Et donc, il y a sans arrêt, au bout d'un moment, quand vous avez déjà, on va imaginer cette traversée, on va dire que par exemple, Christophe Colomb se trouve aux deux tiers, donc l'équipage est déjà à moitié mort, il n'y a plus rien, on a déjà mangé les rats, bon, etc. On commence à boire sa propre urine, vraiment ça dégénère, et on se sent, l'écrivain se sent dans cet état-là, dans l'état du capitaine qui se dit « mais pourquoi on s'est embarqué là-dedans ?» Et puis il n'y a toujours pas cette bande de terre qu'on espère au loin. On ne sait pas quand la fin va venir. Et donc là, on n'arrête pas de souhaiter la fin. Et donc l'écrivain attend la fin de son livre. Et là, il est prêt à tout. Donc il fait des espèces de dénouements. Hop, voilà, et bien c'est fini. Et puis alors, on fait lire à son éditeur qui dit « Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est petit, ça, il faudrait peut-être un peu développer, il faudrait peut-être un peu étoffer, etc. » Et là, on a envie de dire « Mais non, mais là, je n'en peux plus. En fait, je suis fatiguée, je ne peux plus l'écrire, ce livre. » Et bon, on ne le fait pas, en fait, on retourne au travail. Et je me souviens d'une expérience qui m'avait très fort impressionné. C'était, ça va pas être très surprenant quand je vais vous dire ce que c'était comme lecture, mais enfin c'était quand j'ai lu À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Là, ça ne finit pas. Ça, c'est un livre infini qui avance comme ça dans sa durée, dans sa longueur parfaite, et qui ne perd jamais son cap. Et je me demandais, je lisais ça, je me disais, oh, quelqu'un l'a fait quand même. Écrire ça, quelqu'un l'a fait. Et je ne voyais pas du tout comment c'était possible. Et un jour, une amie à moi me dit « Ah oui, mais tu sais, il a écrit un livre avant d'écrire ce livre. Un livre qui était un roman, qui était assez raté, qui n'était pas terrible. Enfin, il y avait tout dedans. Et puis à partir de ce roman, il a tiré ce qu'il fallait en tirer pour faire l'immense roman interminable et circulaire qu'est La Recherche. » Et ça m'avait beaucoup rassurée, même si j'y croyais pas trop, parce que je me disais en même temps qu'après tout, les génies, ça existe, et pourquoi pas en littérature comme ailleurs. Mais quand même, il y avait cette idée, et d'ailleurs, c'est le sentiment qui prend souvent, je crois, les écrivains, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé leur livre, ils sont dans un état de soulagement. Oh, j'ai terminé le roman. Et puis juste après, ils disent... Alors, on est triste après. On est triste parce que, bon, on n'a plus rien à faire. Le roman, comme il est terminé, il est que ce qu'il est. Il ne sera pas meilleur que ce qu'il est. Et ça, c'est toujours une petite déception. Et puis, je crois que très vite, l'écrivain, s'il est un tant soit peu sérieux, il a conscience qu'il aurait pu mieux faire, qu'il aurait pu aller plus loin, qu'il aurait dû, mais ce n'était pas possible. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai la plupart du temps. Mais je crois que ça participe aussi à cette idée que à cet instant où on se dit « Ah, il n'est que ça », c'est peut-être un instant qui est, comme on pourrait dire, un instant de vérité, où c'est le seul vrai moment où le roman échappe complètement à son auteur, et c'est là qu'il se passe vraiment quelque chose. Et ça me rappelle une petite histoire, qui est une histoire de traversée et une histoire de roman en même temps. Et je vais vous la raconter parce qu'après tout, le travail des écrivains, c'est aussi de raconter des histoires. J'étais invitée à faire à passer à la radio en Angleterre sur la BBC. Et j'étais très fière de passer à la BBC. Et j'avais un tout jeune bébé qui avait un mois et que j'allaitais. Et donc je suis partie avec lui à la gare du Nord avec mon billet pour aller enregistrer à la BBC. J'allais faire un aller-retour dans la journée. Je trouvais ça incroyablement aventureux, incroyablement chic. Puis j'arrive à la police. Là, enfin, je dois rendre mon billet avec mon petit bébé. Puis là, le policier me dit « Et où est le billet de l'enfant ?» Je dis pas le billet, il voyage sur mes genoux. « Et son passeport ?» Je dis « Mais enfin, il n'a pas un passeport, c'est un bébé. » Il me dit « Ah oui, non, mais pour voyager, il faut un passeport. Qui me dit que ce bébé est à vous ?» Et je dis « S'il n'était pas à moi, vous croyez que je m'emmerderais à l'emmener à la BBC ?» Et donc il me dit « Non, mais ça, madame, ça ne compte pas. » Je dis « Mais si, ça compte. Je suis obligée de l'emmener parce que c'est le mien. Et pourquoi je sais que vous croyez que c'est le mien ? C'est que je suis obligée de l'emmener parce que je l'allaite. Vous croyez que j'allaiterais un bébé qui n'est pas à moi ? Vous pensez que c'est possible de faire une chose pareille ?» Et il me dit « Mais madame, je ne veux pas le savoir, vous devez faire un passeport. » Je lui dis « Mais enfin, c'est idiot, un passeport, regardez sa tête, on ne peut pas lui faire faire une photo, on ne peut pas le mettre dans un photomaton, vous voyez bien, il est tout mou. » Et ça ne marche pas non plus, il n'accroche pas du tout à cette histoire de tout mou. Et là, je dis « Mais il faut que j'y aille absolument, je dois aller à la BBC, c'est en Angleterre, vous ne vous rendez pas compte, pour un écrivain français, être invité à l'étranger pour parler à la radio, mais c'est tellement important. » Et là, je me mets à pleurer. Quand on vient d'accoucher, parfois on est un peu sensible. Hein. Et donc je pleure, ils m'écartent, ils me sortent de la file, et je comptais, mais il faut absolument que je parte en Angleterre, et je dois prévenir la BBC, etc. Et je pleure. Et puis à ce moment-là, le policier me dit, m'emmène dans ce qu'il m'imagine, il y a l'endroit où il y a la cellule de crise, quoi, dans une petite pièce, et il me dit, madame, vous êtes dans un tunnel psychologique, là. Et moi, je pense, pendant tout le temps, il me parle de ce tunnel psychologique, et je me dis, mais moi, je veux prendre le tunnel sous la Manche. Voilà où je suis, voilà le tunnel où je veux aller. Et je pleure, et je le supplie. Alors, vous êtes dans un tunnel psychologique, madame. Il va falloir sortir de ce tunnel psychologique. Il va falloir en sortir. Et puis, il me parle de ce tunnel psychologique. Alors, je ne sais pas si, au bout d'un moment, je me dis qu'après tout, c'est qu'une histoire de tunnel, et que, oui, voilà, il faut bien en sortir. Et donc, je m'arrête de pleurer, hein, comme n'importe qui, au bout d'un moment, on s'arrête de pleurer. Hein, c'est comme les romans, ça finit toujours par finir. Et donc, je me dis, bon, ben voilà, le train est raté, l'émission est ratée, tout est raté, mais ça n'a pas tellement d'importance. Et puis, je me calme. Et à ce moment-là, il y a un policier qui était là depuis le début, et puis qui me dit, est-ce que je peux vous raccompagner jusqu'au métro ? Je dis, ben oui. Et puis, il y marche à côté de moi. Et puis, très timidement, il me dit, voilà, j'ai cru comprendre que vous étiez écrivain. Et alors, voilà, moi, enfin, à l'école, j'étais assez bon en rédaction. Mais là, je me demande comment... Enfin, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil pour écrire un roman ? Et là, ce qui est bizarre, c'est que là, non seulement je sors complètement de mon tunnel psychologique... Mais je sors même de tous mes tunnels, même de mon tunnel maternel, mon bébé n'existe plus, je pousse même plus la poussette, et je me mets à être vraiment, je me sens investie de cette mission, je vais devoir apprendre à ce policier à écrire un roman, et c'est tout de suite, et je vais devoir le faire en une seule phrase, parce que le métro, la bouche de métro est juste là. Et je convoque en moi toutes les énergies positives et pédagogiques que je peux trouver, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire à ce type ? Et j'y crois en plus, quelque chose en moi envisage, dans sa totalité, comme on envisage justement un roman, je vois ce type devenir un romancier, j'y crois. Et donc à ce moment-là, je réfléchis, je lui dis, écoutez, il y a vraiment une chose qu'il faut que vous fassiez, c'est accepter de perdre le contrôle. Et là, je me rends compte que je parle à un policier, quoi. Il a son képi, il a son arme, c'est son truc, le contrôle. Et on se regarde, et on se dit au revoir, et je ne sais toujours pas s'il a publié son roman, mais je l'espère, en tout cas, je le guette. À chaque rentrée littéraire, je regarde s'il n'y a pas un type avec un képi sur les trombinoscopes. Ah, ça y est, il a suivi mon conseil, il a écrit le roman. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a dans cette idée de la traversée. On ne connaît pas le point d'arrivée, on connaît mal le point de départ, on croit le connaître, mais on le connaît mal. Et la fatigue, pour moi, en fait, c'est tout ça qui fait que, qui caractérise le roman comme une matière, comme une épreuve, comme une durée. Et que cette idée j'ai parlé au début d'une amarre qu'il fallait couper, sectionner, et qui avait aussi une sorte d'abandon volontaire de l'écrivain à son livre, ça me semble être la chose qui est la plus terrifiante et la plus caractéristique du roman, si on doit vraiment essayer d'arriver avec une flèche sur la spécificité du roman. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue, et c'est souvent ce qui permet d'envisager mieux une forme, c'est d'en adopter une autre. Le moment où j'ai écrit, la dernière œuvre que j'ai publiée était un recueil de nouvelles, et l'impression que j'avais quand j'écrivais une nouvelle, c'était que je pouvais tenir la nouvelle au creux de la main, et que j'en voyais tous les aspects. Et si on garde cette métaphore du tunnel qui est si mignonne et qui m'a été livrée par les policiers, quand j'écrivais une nouvelle, j'étais au début du tunnel, mais je voyais tout à fait le jour à la fin du tunnel. Alors que quand on écrit un roman, il n'y a aucune perception de est-ce que ça tourne à un moment, est-ce que ça va en descente, est-ce que ça monte, on ne sait pas où on va. Et puis aussi, il y avait cette question du temps, qui est une question très, très complexe dans l'écriture d'un roman. Quand vous écrivez une nouvelle, vous pouvez envisager, vous pouvez vous dire... L'histoire, parfois, vous l'écrivez en un jour. Une journée, elle est faite. Et après, vous avez toute la semaine pour la retravailler. Et c'est un temps qui, d'une certaine manière, est... humain. Humain au sens doux, douillet. Alors qu'avec le roman, vous n'avez aucune idée du temps que ça va vous prendre. Et vous êtes dans cette tension. Vous devez maintenir une tension alors que vous n'avez au moins le marathon, vous savez que ça fait 42 km. Là, vous n'avez aucune espèce d'indication de ce que ça va vous demander comme énergie. Et puis, il y a aussi ce qui m'a frappée dans cette différence entre la nouvelle et le roman, c'était, comme vous savez que vous avez un tout petit espace avec la nouvelle, vous pouvez sans cesse vous attarder. Travailler sur un détail parce que vous n'êtes jamais, vous êtes quand même davantage dans une position où vous contrôlez quelque chose. Alors qu'avec le roman, au bout d'un moment, il y a comme il y a la nécessité de lâcher le contrôle, faut l'accepter. Donc c'est cette différence-là que j'ai trouvée la plus forte, et d'une certaine manière, si je dois réfléchir à ce que c'est que pour moi un roman, puisque je suis en train d'en écrire un en plus en ce moment, comme quoi on a beau le tuer, il revient, c'est un zombie de première qualité. Ce qui me frappe, c'est à la fois sa capacité d'accueil immense et la qualité d'inconnu, d'incontrôlable et d'indomptable qu'il possède. Donc voilà, c'est à la fois une vieille forme informe, une savate, un fourre-tout. Et un refuge merveilleux. Voilà, je vous remercie. C'est sûrement un peu court, mais c'est comme ça.